Good Morning Business, le monde qui bouge, l'interview.
Une rencontre se prépare cette semaine, celle de Donald Trump et du président chinois Xi Jinping à Pékin, dès mercredi, avec de nombreux sujets capitaux sur la table. Bonjour Alexis Karklins-Marchais.
Bonjour Erwan.
Avec nous ce matin pour en parler, directeur général délégué d'Eight Advisory. Mathilde Chaminade nous a rejoint avec moi aussi pour vous interroger. Alexis, c'est la première visite d'État d'un président américain depuis 8 ans, c'était déjà Donald Trump à l'époque, assez important quand même pour le souligner.
Alors c'est vrai, c'était d'ailleurs un sommet qui était initialement prévu un peu plus tôt dans l'année, il a été repoussé en raison de la guerre en Iran et de la fermeture du détroit d'Ormuz. Il est confirmé, vous l'avez dit, mercredi, jeudi. C'est cette première visite depuis donc une décennie, depuis 8 ans et demi. C'est pas un vrai tournant stratégique, Erwan. C'est plutôt une tentative de gestion d'une grande rivalité, de la grande rivalité entre les deux premières puissances du monde dans ce début du XXIe siècle. C'est éviter une forme d'escalade. La relation, elle est globalement stabilisée. Vous vous rappelez, les deux hommes se sont rencontrés à Busan, en marge, en Corée du Sud, en marge d'un sommet international en novembre dernier. Et donc, c'est là que ce sommet de Pékin avait été acté. La relation depuis, elle reste fragile, il n'y a pas de friction nouvelle, mais pour autant, il n'y a pas d'agenda commun. Ce sommet, qu'est-ce que l'on va voir? On peut s'attendre à voir une forme de mise en scène, d'affirmation d'amitié, une coopération. Il va falloir que chaque camp offre des résultats, des livrables, des choses qu'ils puissent donner à leurs opinions publiques. Mais... Et là, c'est vraiment l'enjeu de ce sommet, sans doute, dans les prochaines heures.
Pourtant, Alexis Karklins, on en attend beaucoup, non, de cette rencontre sous haute tension, avec pas mal de sujets de crispation qui devraient être évoqués, internationaux.
Alors, il y a des sujets qui sont effectivement très attendus. Les tarifs douaniers. Nous sommes dans une forme de trêve transactionnelle entre les États-Unis et la Chine. On s'attend pas à un accord historique. En revanche, on imagine que la Chine va donner un certain nombre de gages, par exemple, sur l'achat de soja américain, l'achat de coton, l'achat de viande, peut-être ce fameux gros contrat Boeing dont on parle beaucoup. Il y a un très gros sujet que les éditorialistes qualifient du nouvel équilibre de la terreur. C'est concrètement la Chine avec ses terres rares contre les puces, les semi-conducteurs américains. C'est vrai que les Américains contrôlent beaucoup l'exportation et l'accès de la Chine à notamment aux processeurs graphiques Nvidia. Et le fameux H20 et maintenant le H200. Il y aura aussi des discussions sur les contrôles à l'exportation et sur les investissements technologiques croisés. Un sujet dont on parle moins, mais qui sera sans doute sur la table, c'est ce qu'on appelle les relations avec les pays connecteurs. Les pays connecteurs sont des pays comme le Vietnam, le Mexique ou la Malaisie, qui sont les bases arrière des chaînes de valeur des entreprises chinoises et des entreprises américaines. Ils utilisent ces pays finalement pour contourner les contraintes entre les deux puissances. Voilà, ça ce sont les sujets, j'allais dire, presque attendus.
Mais Donald Trump arrive quand même dans cette rencontre depuis une position assez affaiblie.
Alors c'est vrai que contrairement au président Xi qui lui est plutôt dans une forme de confiance, Trump arrive affaibli à 6 mois des midterms, il a une cote de popularité qui est au plus bas. La Cour suprême a jugé sa politique tarifaire, qui était quand même une des clés de sa politique économique, elle a jugé inconstitutionnelle. Il y a la guerre en Iran qui s'enlise, le prix du carburant qui est à 40% au-dessus de ce qu'il était avant la guerre en Iran aux États-Unis. Vous savez que c'est un sujet très très important qui contribue à l'impopularité de Donald Trump. Et puis des alliés de l'Amérique qui sont aujourd'hui assez exaspérés par un style erratique, une forme d'imprévisibilité. Lui, du côté chinois, le président Xi est plus en confiance, on l'a dit. Les chiffres de croissance sont plutôt bons sur ce début d'année. L'excédent commercial en 2025, malgré la pression américaine, a été record. On sait que la Chine s'est reconcentrée sur d'autres zones et notamment vers nous, les Européens. On sait aussi que la Chine avance très vite dans la technologie. On parle beaucoup de la robotique, mais il y a d'autres sujets. Et puis, d'une certaine façon, la Chine est en train d'affirmer son soft power. On en parle assez peu. Ce soft power, c'est-à-dire cette capacité d'influence, cette capacité à nouer de nouvelles alliances. Bien sûr, la Chine a aussi ses problèmes, hein, la crise immobilière, la démographie défavorable et puis un marché de l'emploi des jeunes qui est dégradé, pour en citer quelques-uns. Mais la presse chinoise le synthétise en disant finalement Trump a sans doute plus besoin aujourd'hui du président Xi que Chine a besoin du président Trump. Alors, il faut nuancer, hein, la Chine a très fortement besoin de l'export, on sait que la croissance est largement tirée par cela. Il y aura d'autres sujets qui vont venir sur la table. Là, on a parlé des sujets attendus, il y a d'autres sujets qui vont venir. Et justement, dans ce dialogue, le sujet iranien, bien sûr.
Bah oui, ça paraît inévitable.
Ouais. Sauf que, qu'est-ce qui va sortir de cette rencontre? On sait que Washington, aujourd'hui, presse Pékin d'agir sur Téhéran. le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, accuse même la Chine de financer la guerre en Iran. Pékin ne veut pas faire de médiation. Surtout qu'aujourd'hui, elle est capable d'amortir le choc pétrolier, on l'a vu, hein, avec ses réserves stratégiques, ses pipelines terrestres et puis sa diversification énergétique. Donc, à voir ce qui va sortir de ce dialogue. Aujourd'hui, on est dans une forme d'impasse. Le sujet Taïwan, sujet évidemment extrêmement sensible, épidermique pour la Chine.
Taïwan qui vient de voter 25 milliards hein, pour acheter du matériel américain pour se réarmer.
Et donc, c'est la défense de Taïwan, Erwan. Vous avez tout à fait raison. C'est une forme de défense de Taïwan contre la pression de la Chine continentale. C'est la capacité d'acheter du matériel américain. On sait à quel point les États-Unis sont attachés aux transactions commerciales, notamment en matière militaire. Donc, ça peut être un sujet, évidemment, Pékin faisant un peu de pression sur les États-Unis.
L'intelligence artificielle aussi, la presse américaine qui nous apprenait il y a quelques jours que les deux chefs d'État pourraient décider de mettre en place des garde-fous pour éviter de perdre le contrôle sur l'IA. C'est pas complètement nouveau. C'était déjà un sujet sous l'administration Biden. Les deux puissances mondiales qui avaient commencé à discuter de ça, sentant que peut-être ça pouvait dégénérer.
Absolument, et on le voit notamment avec la guerre en Iran. On sait que l'IA a été massivement utilisée par l'armée américaine en Iran, et la Chine, d'une certaine façon, s'inquiète d'une généralisation de l'utilisation de l'IA avec des conséquences potentiellement très dommageables pour l'ensemble de la planète et pour les équilibres du monde. Et je crois que ça reflète assez bien finalement ce qu'on peut attendre de ce sommet. Encore une fois, pas de grandes annonces au-delà des effets de scène et au-delà de l'affichage médiatique. On a
Deux jours, c'est un peu court, non, pour
parler
court. De tout ça.
En réalité, les équipes préparent ce sommet depuis très longtemps. Hein, donc, les sujets sont déjà sur la table. Tout ce qui va être annoncé est déjà préparé. Là, on est vraiment dans la phase médiatique, dans la phase d'affichage. Mais clairement, Trump a besoin de montrer des victoires. De son côté, Xi veut pouvoir asseoir le statut chinois sans concéder l'essentiel. Si finalement, la Chine cherche à se poser comme un acteur raisonnable dans un système international devenu très imprévisible, avec une Maison Blanche très erratique.
Mathilde.
Sur l'IA, il y a quand même une forme d'urgence à trouver un accord entre les États-Unis et la Chine, étant donné la vitesse à laquelle évolue cette technologie.
Oui, mais là encore, comme il s'agit d'un sujet majeur de rivalité entre les deux grandes puissances, on peut s'attendre à quelques annonces, à potentiellement une forme de consensus symbolique, comme on avait pu dans l'histoire. Par exemple, on avait, rappelez-vous, on parlait de désarmement nucléaire. Eh bien, l'IA est un peu un sujet qui correspond à celui-là aujourd'hui en 2026. Pour autant, vraiment, la probabilité d'arriver à des percées majeures, moi, me semble faible. Les grands sujets risquent d'être repoussés.
Alexis Herklins, pour conclure, derrière ces enjeux économiques dont on vient de parler avec vous, il y a aussi des enjeux personnels, oui, aussi bien côté américain que chinois.
Et oui, parce que la Chine a besoin vraiment de se poser comme une puissance d'équilibre, de rivaliser, de montrer que c'est finalement aujourd'hui la puissance qui joue, qui traite d'égal à égal avec la puissance américaine. Et de côté américain, des enjeux électoraux très forts.
Et oui, c'est les midterms.
Une des dernières chances avant les midterms de novembre, une des dernières chances au niveau international pour l'Amérique d'apparaître fort, notamment Trump qui a fait de son personnage cette capacité à vraiment influencer le monde et à montrer de la force dans les négociations. C'est une des dernières occasions, un des derniers moments.
On surveillera d'ailleurs ce qui sera dit ou pas sur le secteur de l'automobile, puisqu'il est possiblement question que Donald Trump assouplisse les surtaxes sur les automobiles chinoises, ce qui ne plaît pas à une certaine partie de la classe politique américaine. Hein,
c'est vrai.
Et aux constructeurs américains.
C'est vrai. Et on voit bien que c'est un sujet de transaction. Il y a plus d'une centaine aujourd'hui de constructeurs automobiles chinois qui est aujourd'hui en situation de surproduction pour le marché domestique, donc qui a besoin d'exporter. On le voit notamment en Europe. Les États-Unis sont un autre marché très très important pour les constructeurs automobiles chinois. Ça sera de toute façon du donnant-donnant.
Merci beaucoup pour ce décryptage avec nous ce matin, Alexis Herklins-Marchais, directeur général délégué Date Advisory.